Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. Une ville balnéaire, l'hiver. Les touristes sont partis, le paysage se drape d'une brume cotonneuse. Le marché aux poissons, d'ordinaire grouillant, tourne au ralenti. Bienvenue à Sokcho, en Corée du Sud, non loin de la ligne de démarcation avec le Nord. Une ville en bord de mer mais entourée de hautes montagnes. Théâtre d'une improbable rencontre entre une jeune femme en quête de ses origines et un dessinateur ombrageux venu de France chercher ici solitude et concentration dans le travail. Hiver à Sokcho sort aujourd'hui au cinéma en France. Réflexion sur les origines, la filiation, un film délicat, poétique, adapté d'un premier roman, premier long métrage de Koya Kamura et premier rôle au cinéma pour Bel Hakim. Bienvenue sur le Pont des Arts. Et bonjour à tous les deux, Koya Kamura, Bel Hakim.
Bonjour,
bienvenue.
Merci beaucoup de nous recevoir. Merci.
Vous vivez chacun à travers ce film un baptême du feu. On va en parler ensemble, celui de réalisateur de long métrage pour vous, Koya Kamura, celui de comédienne pour vous, Bel Hakim. Vous êtes donc cette jeune femme, Soha, qui cuisine et sert les clients dans une pension de Sokcho, qui fait la rencontre donc du personnage joué par Roche Dizem. C'est un film dans lequel on passe beaucoup de temps à penser au repas, à les préparer, beaucoup de temps à table. Bonjour Clémence Denavy.
Bonjour Nathalie.
Vous avez regardé Hiver à Sokcho avec vos yeux de productrice du goût du monde sur RFI.
Je me suis régalée, Nathalie, je vous l'avoue, par procuration de calamars farcis, de poulpe frit, kimchi blanc. Admirez aussi cette fleur de fougou faite de la chair si délicate de ce poisson poison, potentiellement mortel et donc fascinant. Intriguée aussi par ce boudin venu tout droit de Corée du Nord.
Et on a hâte de vous entendre. Sur le Pont des Arts encore aujourd'hui, une marathonienne de la danse, Nadia Vadori-Gauthier. Chaque jour, depuis le 7 janvier 2015, elle danse une minute par jour, une petite manif quotidienne, nous dit-elle. Sa réaction aux attentats d'il y a 10 ans. Et puis en fin d'émission, on sera à Nairobi pour découvrir le hit de la semaine, ce qui fait danser là-bas avec Ali Bilali de la rédaction en Kiswahili d'RFI. Nakupa Moyo et le groupe L'Afrique sur le Pont des Arts.
RFI sur le Pont des Arts.
Toi, 이 알란들롱 도무지 이해를 못하겠다. 내 자막이 없어서.
Bonjour.
Vous allez rester combien de temps?
Je ne sais pas, j'ai encore rien décidé.
Mais c'est intime quand même.
J'adore vos dessins. J'adore leur mélancolie.
Et votre prochaine histoire se passera à Sokcho alors?
Vous pouvez me montrer? Votre Sokcho? C'est votre père qui est français?
Je ne l'ai jamais connu.
Je suis juste un touriste, un client comme les autres. Rien de plus.
Vous ne trouvez pas triste de croire qu'on peut retrouver quelqu'un comme ça après tant d'années?
Il n'y a rien de triste à espérer ou à attendre.
Extrait de la bande-annonce d'Hiver à Sokcho, Koya Kamura. Ce film, il est adapté du roman de l'autrice franco-coréenne Elisa Chua du Sapin. On l'entreaperçoit au tout début du film, d'ailleurs, Elisa Chua du Sapin, sortant de la pension Blue House avec sa valise. Un clin d'œil en mode Truffaut ou Hitchcock, hein, qui se débrouillait toujours pour apparaître à un moment dans leur film.
Alors, pour le coup, c'était pas du tout son envie à elle, mais pour moi, c'était important, comme il s'agissait d'une adaptation.
C'est un peu comme une justice,
voilà,
en
de lui rendre
sorte.
Justice d'une certaine manière et de lui passer le relais. Donc, je trouvais ça joli qu'elle apparaisse en début de film pour laisser la place au film, justement.
Elle n'a pas participé à l'écriture du scénario. Elle vous a laissé totalement la main. Ce livre, donc c'est cette rencontre qu'on a brièvement évoquée tout à l'heure, c'est aussi une réflexion sur l'identité, sur la double appartenance. Koya Kamora, un pied en Corée du Sud, un pied en France pour l'héroïne que vous interprétez, Bella Kim. C'est un thème auquel, évidemment, vous avez été, vous, sensible en tant que franco-japonais aussi.
Tout à fait. Moi, je suis franco-japonais. Je suis né à Paris, j'ai grandi en France. J'ai grandi dans une culture française. Je suis parti vivre au Japon pendant un an à l'époque de l'université. Donc voilà, j'ai eu un autre aperçu malgré tout. Mais en France, je me suis toujours senti un petit peu différent d'une certaine manière. J'ai toujours été l'asiatique dans mon groupe d'amis et pour les gens autour de moi. Et quand je suis allé vivre au Japon, j'ai parfaitement senti aussi que je n'étais pas du tout japonais.
L'a fait sentir.
On me l'a pas fait sentir volontairement, mais on le ressent. Et au final, je dirais que je suis franco-japonais, mais je suis ni français ni japonais. Je suis un petit peu entre les deux. Et donc, du coup, voilà, c'est une thématique qui me parle et qui a infusé longtemps en moi parce que je m'en suis jamais rendu compte que ça m'avait. Je me suis construit avec ça, donc ça a jamais été un problème. Et à la lecture du roman d'Elisa Chua du Sapin, donc qui parle de
tilt,
ça a fait complètement tilt et du coup ça a déclenché beaucoup d'envie.
Et Bella Kim, chez vous aussi, l'histoire de cette jeune femme qui naît en Corée du Sud, d'une maman sud-coréenne dans cette culture, mais qui sait qu'elle a quelque part ailleurs un ancêtre en France. Ouais. C'est aussi quelque chose qui vous a parlé, qui vous a plu?
Oui, moi j'ai vécu en Corée pendant 20 ans et après, depuis 10 ans, je vis en France et c'est la Corée, c'est mon pays natal et où en fait j'avais l'impression, je me sentais différente des autres parce que j'étais toujours la plus grande et j'ai la voix grave.
C'est vrai qu'on n'a pas l'image, mais vous faites quoi? Plus d'un mètre 80
à peu près, ouais. Et aussi la manière de vivre, la manière de penser. Il y avait plein de choses. Donc en fait, je voulais venir et je voulais quitter de la Corée pour chercher quelque chose, pour chercher moi-même ou une vie idéale comme ça. Et je vis en France depuis 10 ans et j'avais l'impression d'avoir beaucoup de commun, comme un point commun avec les personnages. Donc en fait, ça m'a...
Et on est très fiers de dire au passage, vous me l'avez confié avant le début de l'émission, que vous avez appris le français grâce
à RFI.
Je vous laisse le dire.
Grâce
c'est
à
beau.
RFI.
C'est une bande-annonce pour le journal en français facile.
RFI.
Qui suivra l'émission d'ailleurs. Comment vous êtes entrée dans ce personnage de Soa pour ce premier rôle au cinéma, premier grand rôle Vous êtes l'une des deux protagonistes, l'une des deux héroïnes
c'est
de ce film.
Tous les plans.
C'est vrai que... ça m'a donné envie de faire, faire ce film parce que c'était l'histoire de Soa. C'était pas parce que c'était le rôle principal, c'était vraiment c'est l'histoire de Soa. C'est parce que ça a résonné en moi vraiment de manière profonde et de manière personnelle. Et oui, bien sûr, en fait, ça m'a manqué la technique, tout ça. Mais en fait, on a beaucoup discuté avec Koya. Et
ça s'est fait naturellement. Quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais. Elle mène une vie tranquille au début. Elle a son boulot dans la pension. Elle a son copain. Et puis, on découvre petit à petit la faille, la quête de ce père passé par Sokcho dans le cadre d'une mission dans l'ingénierie de la pêche, reparti en France sans savoir qu'il laisse sur place une enfant. C'est donc l'arrivée du personnage de Kéran. Interprété par Roche Dizem, qui réveille ce manque.
C'est ça. Qui la repousse à remettre toutes les questions qu'elle avait dans sa vie. Donc, c'est le moment.
Koya Kamora, Roche Dizem, vous teniez à la voir, lui, précisément, pour ce rôle.
Oui, pour moi, c'était...
Pour quelle raison?
Déjà, c'est un comédien que j'admire vraiment énormément. Je trouve... extrêmement talentueux, je trouve qu'il dégage quelque chose de formidable, d'extrêmement cinégénique. Et dès l'écriture du scénario avec mon co-auteur Stéphane Likong, je pense que j'avais en tête cet acteur. Je le prenais comme une référence. Sauf qu'à aucun moment
vous l'aviez vu chez Arnaud Desplechin.
Absolument, je l'avais vu dans le rôle du commandant Daoud, commissaire Daoud. Et je trouve qu'il avait beaucoup de points communs avec le personnage de Kéran, beaucoup de choses qui me plaisaient, une aura très forte, mais taiseux malgré tout. Voilà. Et je pensais à lui, mais à aucun moment je me suis dit qu'il allait accepter un
Et la bonne surprise, c'est qu'il a dit oui.
Et il a dit oui.
Ça a donné une autre dimension, peut-être.
Ah bah tout à coup, là, on
n'est
plus en train de faire un film
parce
avec
qu'il
des copains.
Il est très connu en France, on le dit voilà. à nos auditeurs du bout du monde. Roche Dizem est un acteur effectivement très connu en France. Yann Kerrang, donc ce personnage, on ne sait rien de lui, il reste jusqu'au bout un mystère. Et c'est comme ça d'ailleurs que Sora s'en empare, elle se
Exactement.
Projette totalement sur lui.
Elle vous l'a dit, elle se projette. Donc pour moi, Kerrang, c'est pour ça que c'est un rôle qui est compliqué à jouer et qui est compliqué à faire comprendre d'ailleurs aux comédiens. Mmh. Mais Roger l'a parfaitement compris et c'est ça qui est formidable avec lui. C'est le rôle de Kerrang est une page blanche sur laquelle Sora va projeter tout ce qu'elle a à projeter, tous ses manques, tous ses vides. Et donc, effectivement, il fallait avoir ça.
Et c'est compliqué. Hein. Il faut avoir du courage parce qu'il n'est vraiment pas communicant.
Il
dit qu'il adore les lieux très fréquentés, mais seulement quand ils sont désertés. on le trouve même... Les gens sur place le trouvent même à la limite de la politesse et de la correction. Hein. On le surnomme Alain Delon. On va t'occuper d'Alain Delon, lui dit le patron de l'auberge. Et à un moment donné, quand même, la glace se brise. On va y revenir. L'hiver sur Télé. Le titre que l'on écoute à présent, signé Le Scope sur le Pont des Arts.
Je sentais l'hiver sur tes lèvres à chaque fois que je t'embrassais. Moi je rêvais sur la grève, mais la
sur tes lèvres dans la playlist RFI du mois de janvier.
Sur le Pont des Arts.
Koya Julia Kamoura, on l'a compris, Hiver à Sokcho, c'est davantage un film d'atmosphère qu'un film d'action.
C'est vrai.
L'image est léchée, elle est ponctuée aussi, on ne l'a pas dit, d'images d'animation entre les scènes. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Qu'est-ce qu'il apporte à votre mise en scène,
l'animation.
À la réalisation ? L'animation.
Encore une fois, c'est une adaptation d'un roman. Et dans le roman, le roman est écrit à la première personne. Donc ouais. On est dans la tête du personnage, on comprend ce qu'elle ressent, on comprend sa vision du monde, le ton avec lequel elle regarde le monde, son cynisme qui m'a beaucoup plu et séduit d'ailleurs. Et je voulais trouver un moyen de retranscrire ça pour le spectateur, parce qu'au cinéma, évidemment, le médium est différent. Et on aurait pu passer par une voix off, mais je voulais surtout pas passer par une voix off, parce que je voulais une émotion un peu plus brute et organique. Et une voix off, pour moi, signifie qu'on a déjà un peu interprété, dès qu'on est capable de retranscrire avec des mots, c'est qu'on a déjà interprété l'émotion. Je trouve que l'animation se prêtait parfaitement à avoir cette espèce d'aperçu sur l'intériorité du personnage, parce que ça permettait de voir des émissions brutes et organiques, justement.
Ouais. En lisant votre bio, j'ai vu que vous étiez passé par la Walt Disney Company.
Tout à fait.
Ça a à voir avec ça ou pas ?
Je pense pas du tout. Au final, malheureusement.
C'est pas la même animation.
Pas du tout. C'est pas du tout la même animation, mais non, rien à voir.
En tout cas, ces scènes animées, ce sont comme des pauses dans l'intrigue, dans des moments où le spectateur est mis face à une émotion brute. Et ça fait écho, évidemment, à l'activité de Kerrang, qui passe le plus clair de son temps à dessiner. Je parlais d'atmosphère parce que cette ville de Sokcho, c'est un vrai personnage aussi dans ce film, d'habitude grouillante. Là, on la voit un petit peu endormie, la plage déserte, le marché clairsemé, cette lumière d'hiver un peu tamisée. Ça a été compliqué à restituer à la caméra ?
Compliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une volonté profonde et immédiate. Moi, c'est ce qui m'a aussi séduit dans le roman. Un peu comme Kerrang, je crois que j'aime bien ces espèces de lieux vidés de leur population. Et j'avais fait un premier court-métrage en 2018 qui s'appelle Homesick, que j'avais tourné à Fukushima. Et je fais bien la part des choses, évidemment. Fukushima n'a rien à voir avec Sokcho en hiver, mais je retrouve à Sokcho c'est des objets qui sont des natures mortes, qui sont des témoins de la vie de l'été, mais complètement à l'arrêt. Donc il y avait des pédalos sur la plage retournés, couverts de neige. Et j'aime ce contraste là et donc voilà, ça c'est important de le retrouver.
Un ami à moi, il est venu à l'avant-première hier et il m'a posé la question, est-ce que Sokcho, ça existe vraiment ?
Ou est-ce qu'on l'a créé ?
C'est pas la ville, imaginez pas.
C'est une ville qu'on a créée de toutes pièces.
Oui, absolument. Il m'a posé cette question.
C'est vrai qu'il y a cet aspect un peu fantomatique qui est rendu dans le film. Vous la connaissez, cette ville, Bellakim ?
Oui.
Vous y avez vécu ?
Oui, j'ai vécu.
Vous l'avez reconnue ? Dans la caméra de Koya Kamoura ?
Oui, en fait, c'est la ville de mon enfance, donc je la connaissais par cœur, mais c'est pas cette version de Koya. Donc en fait, je suis vraiment reconnaissante d'avoir travaillé, d'avoir vécu dans ces structures de Koya, parce que c'est l'autre ville.
Oui, parce que c'est une ville grouillante. Enfin,
absolument.
Voilà,
la ville
a
beaucoup
moderne,
changé,
il y a des buildings.
Ouais,
vous avez raconté d'ailleurs que vous avez été surpris,
surpris
de découvrir la vraie ville de Sokcho après avoir lu le roman.
En fait, j'ai lu le roman et j'ai fantasmé une ville que j'imaginais un peu décatie, un peu abîmé, assez modeste. Et quand je suis arrivé là-bas pour les premiers pérages, je suis arrivé pour les premiers pérages, je pense 11 ans après l'écriture du roman.
Ouais.
Et en 11 ans, la ville avait
tout
été
avait
complètement
changé,
transformée. Il y avait des buildings, c'était hyper modernisé. Et il y a des
vous
quartiers.
Avez même imaginé changer le lieu de tournage.
On s'est posé la question, on s'est demandé est-ce que ça avait du sens. Et au final, on a décidé de garder Sokcho et d'intégrer ce changement de ville, cette modification de la ville dans l'histoire.
Enfin, en fait, j'ai vécu à ce Sokcho que tu avais imaginé quand j'étais petite. Genre, il n'y avait même pas Starbucks. En fait, c'était vraiment une ville.
Sans les grandes enseignes internationales.
C'est vrai que toutes les villes
se ressemblent aujourd'hui. De ça.
Avec les montagnes, oui, c'était simple. C'était une ville vraiment simple avant.
Ouais. Mais vous la préférez comment, votre ville de Sokcho?
Maintenant,
c'est
ou
films,
pendant votre enfance?
Sokcho de Koya, ouais.
En tout cas, dans ce film, il y a le noir de l'encre des dessins de Kerrang et celui de l'encre de sèche. On passe, je le disais, dans ce film, beaucoup de temps à table, beaucoup de temps à préparer les repas parce que Soa les prépare elle-même, ses repas pour les clients de l'auberge. On est avec elle quand le feu crépite, que les plats prennent forme. C'est d'ailleurs aussi à travers la nourriture qu'elle tente d'aborder Kerrang. C'est un échec,
c'est
clairement.
Elle
veut lui préparer des choses, elle veut lui faire goûter des choses,
c'est
ça ne se fait jamais.
Ah, oui.
Elle fait même un bœuf bourguignon.
Même avec du vin coréen. Ouais.
Et ce bœuf bourguignon, c'est à peu près la seule concession à la cuisine française en une heure et demie de film. Hein, peut-être avec les œufs au plat. Clémence Denavy, Hiver à Sochaux, c'est une leçon de cuisine coréenne, quasiment.
De cuisine, de culture peut-être, de culture culinaire, cuisine de l'hiver à Sochaux, de la saison, de la nature qui se reflète également dans l'assiette. La nature, c'est la mer et la terre, hein, ouais, la montagne qui borde la ville. Sochaux et son marché aux poissons, bien sûr. Alors, je ne vous remercie pas pour la salive qui me montait à la bouche, évidemment, devant ce poulet frit qui nous régale dès les premières minutes du film, le crépitement de l'huile, la louche de pâte de soja fermentée, incontournable pâte, évidemment. Pas assez de piment, dit un client un peu grognon dans cette pension. S'en suivent les calamars farcis, presque à la perfection, par Sohan, qui demande d'un signe de la tête et obtient l'approbation de sa mère, qui lui a enseigné leur préparation. Sur ce point, la transmission en tout cas est faite. L'omelette aux légumes partagés, la soupe de crabe promise, mais qu'on ne verra pas. D'autres encore n'est partie, la vapeur qui s'échappe des bols de riz. Et le blanc du daikon, le riz qui rappelle le givre et la neige de dehors. Venez à la pension ce soir, je fais une soupe de radis, c'est très coréen, pas très épicé. Énième proposition que vous faites, Soha, faites en vain, bien sûr, aux Français qui s'obstinent à manger des chips et qui veulent manger dehors, mais pas à la pension, dans un restaurant, pas trop brillant surtout. On aimerait piocher dans les bols du dîner, goûter cette omelette soufflée dans le pot en terre, aux légumes, au kimchi, le chou fermenté, l'un des phares plats de la cuisine coréenne, apprendre à manier les baguettes qui sont plates et en métal, contrairement aux chinoises et aux japonaises, poser quelques questions sur ces fruits choisis, sur ce plateau de Nouvel An dont on va se régaler pour, en hommage aux ancêtres. La cuisine et la table tentent, vous l'avez dit Nathalie, de jouer les entremetteuses. C'est un peu leur rôle d'habitude. Là, c'est un peu complètement raté. Rien ne va. La seule chose qu'ils goûtent, c'est l'encre de sèche et encore l'encre de l'imprimerie et le papier qu'ils mangent. Donc, il ratera aussi le pauvre, l'étrange et mystérieuse pensionnaire, tout en bandelette et convalescence qui, elle, prend ses repas à la pension. Restent les métaphores culinaires. Ce temps impitoyable qui file comme une loche entre les doigts, ou encore avec sa tête, on dirait un fougou.
Alors fougou, justement, Clémence, parlons-en, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, il intrigue et il fascine, ce fougou. Vous savez, c'est un poisson-poison, en fait, pas tellement rare en réalité dans les eaux du Pacifique, mais il fascine parce qu'il potentiellement, il tue, et à ce titre, il est mythique, il est adoré au Japon. Pour le manger, c'est tout un cérémonial. Les rituels saluent le courage du mangeur, sa bravoure. Il doit surtout avoir une confiance totale dans la manière dont il a été préparé par le cuisinier. C'est d'ailleurs un expert qui doit le faire avec un couteau spécial, j'ai appris. Dans le film, il est préparé, mais dans la plus pure tradition, les sashimi, donc ces lamelles de chair si fines qu'on envoie par transparence l'assiette sur laquelle ils sont posés, sont déposés en fleurs, c'est magnifique, c'est tout un art, mais c'est assez exotique en fait. Et c'est aussi ce qui est amusant, c'est sa place pivot dans la transmission de la mère à la fille qui ne sera pas aboutie. Un autre moment qu'on ne dévoilera pas évidemment dans le film, il apparaît.
Surtout pas,
on dirait rien. Et cette importance, elle est intéressante parce qu'elle donne un regard un peu étranger, un peu exotique, comme si on n'était pas familier de cette coutume du fougou. Et donc ça nous a un petit peu interpellés et on s'est demandé en fait si ce fougou était aussi une évocation de votre propre relation à votre double culture.
Il y a aussi, Clémence, Koya Kamura, vous voulez réagir ? C'est une évocation de votre double culture ou pas forcément ?
Mais le fougou, il y a pour moi plusieurs rôles dans ce film. C'est une évocation du personnage de Kéran qui est très compliqué à appréhender, mais si on arrive à le cuisiner d'une certaine manière, je pense qu'on peut réussir à l'atteindre. Et voilà, et puis il apporte cette espèce de danger mortel et surtout une espèce de tradition familiale qui se transmet de mère en fille, et seule la mère peut le transmettre à sa fille et créer une frustration chez sa fille parce que sa mère ne veut pas lui transmettre, justement.
Ouais, Clémence, il y a aussi un boudin dans ce film préparé par la mère de Soa et offert à M. Pak.
Absolument, et en voyant ce boudin, je me suis souvenue en fait d'une histoire que j'avais entendue il y a quelques années d'un village de réfugiés nord-coréens à Sokcho, justement. Abaye Maeul, je ne sais pas si je
prononce. Abaye Maeul, c'était bien.
Ouais, très bien.
C'était bien,
peut-on d'ailleurs parler de réfugiés? Parce que si on repense à cette histoire, ce sont des gens qui sont installés, venus de Corée du Nord pendant la guerre entre 50 et 53. Donc ils étaient venus à Sokcho qui à l'époque était encore en Corée du Nord. Ils pensaient pouvoir retourner et en 51 la frontière a changé. Cette fameuse ligne de démarcation a été définitivement posée juste au nord de Sokcho et est devenue infranchissable. Ces hommes sont restés, ce sont des pères, des abayis, c'est ça que ça veut dire, abayi sende. C'est donc ces ces boudins en fait, qui sont faits de sang de porc, de légumes et de riz gluant, relevés de piment, à Baïsson des Doncs. On les sert en tranches, on les mange avec des baguettes. C'est le boudin du père. De là à dire, bon alors, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, mais bon, je me lance.
Allez,
que Souha, dans ce film, quand même, dévore son père. Il n'y avait qu'un pas.
C'est parfait.
Comme ça que vous l'avez interprété, Bellakim.
C'était parfait. C'était bien. Je n'ai rien rajouté, en fait.
Ah non, c'est très précis.
Oui, c'est très précis.
Très précis, très juste.
Je veux revoir le film avec vos explications.
Mais c'est très bien,
oui, mais franchement. Pour moi, les plats coréens sont... Enfin, en fait, je suis habituée à manger les plats coréens, donc sans penser cette... Oui, c'est sens.
Hein.
Ouais.
Tout ça. Ouais.
Oui, tout ça, mais ça me donne envie de revoir le film... Oui, comme ça, c'est avec vous.
Mais ce que tu dis, c'est intéressant sur le boudin, parce que c'est effectivement... Sokcho est particulière comme ville, parce qu'il y a cette communauté nord-coréenne qui est présente. Et je ne sais plus qui là-bas m'avait dit qu'on appelait cette ville la ville des larmes, parce que justement, elle symbolisait de nombreuses familles séparées. Et ces gens-là se sont installés dans cette ville, ont commencé à apporter leur cuisine, leur spécialité, sans savoir que ça allait rester de manière définitive. Donc il y a quelque chose d'assez tragique aussi, je trouve, dans cette nourriture.
Et c'est évoqué dans le film, hein, cette question des familles séparées. Oui. Elle est présente. Il y a aussi ce moment où ils vont vers la ligne de démarcation, hein, vers la zone démilitarisée entre les deux Corées. C'est le moment qui les rapproche, d'ailleurs. Bellakim, votre personnage et celui de Kéran.
Yann Kéran, oui, c'est ça. Mais en fait, ça signifie beaucoup parce que Sora lui dit qu'en fait c'est la zone démilitarisée, en fait c'est personne n'y va, mais en fait ça veut dire qu'en fait c'est sa vie, en fait personne ne vient pas à ma vie, et comme ça c'est le moment où elle montre sa vie à Yann Kéran.
Elle lui montre son Sokcho,
ouais,
comme on l'a entendu tout à l'heure. Merci Clémence Denavy.
Avec plaisir.
Merci
le goût du monde avec vous.
Ça donne faim à nouveau,
oui,
effectivement.
Oui,
et si vous avez faim, le goût du monde sur RFI. Le samedi, 21h30, temps universel, le dimanche, 11h30, TU, à tout instant, en podcast. Dans un instant, la parole à une marathonienne de la danse. Une minute de danse par jour, parce qu'une journée non dansée serait une journée perdue. On entendra Nadia Valory-Gauthier.
Don't you need-
la chanteuse Rosé avec Bruno Mars et ce titre Apathé. Alors il faut que je vous dise qu'en studio Bella Kim c'est comment dire, c'est très moussé,
c'est
sur
transformé.
Sa chaise du studio 41. C'est la musique de chez vous.
C'est ça, merci beaucoup. En fait, je viens de vous poser, c'est ça fait exprès, vous avez fait exprès de mettre ces chansons pour moi.
Oui.
Merci beaucoup.
Grâce à Pierre et à Damien Roucou, le programmateur de l'émission.
C'est top.
Quand les arts nous sauvent, qu'ils nous rassemblent, celle que vous allez entendre conçoit la danse comme un acte de résistance poétique, tout comme Kéran, dans le film, voit le dessin un peu comme son sauveur, hein, celui qui va le sauver d'une situation compliquée. Nadia Vadori-Gauthier a lancé il y a 10 ans une minute de danse par jour, c'était au lendemain des attentats de janvier 2015 en France, passé le choc, ou plutôt encore sous le choc de la tuerie à Charlie Hebdo, à Montrouge, puis à l'Hypercacher. Elle a fait le pari de cette minute quotidienne dont elle poste les vidéos sur les réseaux sociaux. Alors elle a dansé par tous les temps, dans tous les lieux, le métro, les stations essence, les lavomatiques, les stades, dans sa salle de bain, dans les champs, au bord de la plage, chaque jour un décor différent. On en est donc 10 ans plus tard à plus de 3600 vidéos de ces minutes de danse. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai demandé d'abord comment lui était venue cette idée.
De l'absence d'idée, justement, de la stupeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut rien faire, ou quand il semble qu'on ne peut rien faire, que le monde est trop dur ou que les événements sont trop violents. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec mes outils, quelque chose qui soit à ma portée, qui quand même me permette d'agir pour le monde plutôt que de rester coupé de toute perspective.
Danser en janvier 2015, ce 8 janvier 2015, pour vous, c'était tout simplement ne pas s'écrouler, rester debout ?
Oui, c'était ne pas s'écrouler et aussi participer, ne pas se couper du monde. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être au cœur du monde, au cœur des choses, même un jour, même un lendemain de telle violence, et être avec sa sensibilité, être avec son cœur, être avec l'expression partagée, puisque j'étais ce matin-là avec un groupe de jeunes danseurs, et qu'on a dansé toute la matinée pendant 4 heures, place de la Concorde, simplement pour dire nous sommes vivants et nous résonnons fortement avec ce qui vient de se passer.
Et ça a été donc le début de cette aventure. Vous n'en avez loupé aucun de ces rendez-vous. Danser, ça a été véritablement tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Oui, après le 8 janvier, il y a eu d'autres événements, donc je n'ai pas dansé. Il y a eu aussi cette marche incroyable républicaine du 11, et j'ai commencé véritablement les minutes numérotées, pour ainsi dire, le 14. Et effectivement, depuis ce jour-là, pas un seul jour n'a pas été dansé, en tout cas dans le cadre de la minute, puisque moi je danse depuis que je suis toute petite, hein, j'ai une formation initiale en danse, mais pour cette cause, depuis le 14 janvier 2015, oui, tous les jours.
Et vous expliquez que cette minute, c'est une petite manif quotidienne, une manif d'une poésie assez peu commune, hein, Nadia Vadori-Gauthier.
Oui, c'est une manif, manifester pour ce qui compte, pour le sensible, pour le désir d'être ensemble sur des moyens plus doux que ceux du totalitarisme, que ceux des dualités, de l'exclusion. Comment est-ce qu'on peut vivre dans l'étoffe même des jours, au cœur même du monde, en mettant en partage, en résonance, en commun, ce qu'on ne dit pas de nous, notre part plus sensible, notre part d'imaginaire, notre part de rêve, notre désir profond, finalement, d'être avec les autres.
Vous aimez citer Nietzsche, le philosophe, qui, dans un de ses ouvrages, Ainsi parlait Zarathoustra, écrit « Je ne croirais qu'en un dieu qui saurait danser ». Cet art, Nadia Vadori-Gauthier, il relève pour vous aussi de quelque chose de sacré ?
Oui, il y a quelque chose dans une façon fondamentale d'être au monde. Être vivant, je me suis toujours dit que c'était être en rythme. On est vivant parce qu'on est en rythme, on a le cœur qui bat, le sang qui pulse dans nos veines, enfin le temps qui bat et le temps qui est compté finalement. Et être vivant, c'est participer à ce rythme du monde, en lien pour moi à ce que c'est d'être humain sur la Terre. Donc oui, il y a quelque chose de profondément lié au corps, à la planète, et aussi peut-être une dimension sacrée qui est pour moi plutôt païenne, sans être attachée à aucune religion. Simplement, oui, tant est que si on peut imaginer que la vie est sacrée ou qu'il y a quelque chose d'une beauté inouïe dans le fait même de l'existence, alors oui, quelque chose comme ça.
Quelque chose comme ça, et toute journée non dansée, pour vous, serait une journée perdue.
Oui, parce qu'on n'aurait pas été connecté par notre sensibilité au jour dans lequel on vit quoi, aux choses autour de nous, aux personnes, sur des moyens sensibles. Donc oui, quelque part, si on n'est pas en rythme, si on n'est pas relié par nos sensibilités les uns les unes aux autres, eh bien le jour est foutu.
Vous allez arrêter là, le 14 janvier 2025, ce sera la fin de cette aventure d'une minute de danse par jour ?
Oui, écoutez, j'ai déjà dit ça deux fois. J'ai dit ça à la danse 1000 et j'ai dit ça à la danse 3000.
Ah.
Et finalement, le dispositif m'a requise. Là, je pense oui que j'arrête parce que je suis presque un peu au bout de mes forces de cette aventure sans aucun jour de pause depuis 10 ans.
C'est une performance sportive aussi. Oui.
Ah oui, oui, c'est une performance dans tous les sens du terme qui m'a entièrement requise, au service de laquelle je me suis mise. Et là, j'ai envie un peu d'un temps de jachère pour... juste imaginer ce dont je n'ai pas encore idée.
Et en attendant, vous êtes à l'occasion des 10 ans de ces attentats invités cette semaine sur la scène du Théâtre de Chaillot. Merci Nadia Vadorigottier d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup pour l'invitation.
RFI sur le Pont des Arts.
Sur le Pont des Arts avec Koya Kamoura et Bella Kim pour la sortie d'hiver à Sokcho. Koya Kamoura, ce défi artistique de Nadia Vadorigottier, acte citoyen aussi, qu'est-ce qu'il évoque en vous ?
Ah, je trouve ça magnifique, je trouve ça bouleversant parce que ça part d'un sentiment que je comprends à 200%, c'est-à-dire que je l'ai compris, je l'ai ressenti en 2015, quand elle dit « que faire quand on ne peut rien faire ?» et c'est quelque chose que je ressens encore aujourd'hui, il se passe énormément de choses formidables dans le monde, mais il se passe aussi énormément de choses que je ne m'explique pas et qui me laissent impuissant face à tout ça. Et effectivement, à plusieurs niveaux, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser déprimer ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas voir que du noir quand on a des enfants ? J'ai deux enfants, il y en a un qui est juste là.
Oui, il est là, absolument, il suit l'émission, il nous fait coucou.
Et qu'on commence à se poser des questions très lourdes et très profondes. Et voilà, que faire quand on ne peut rien faire ? Et je trouve que de transformer cette noirceur en énergie positive, et je parle d'énergie parce qu'elle associe ça du coup à un mouvement, à une activité physique.
Et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos qui sont
vraiment des
petites... Vous irez les voir, on vous donnera l'adresse. Ce sont vraiment des petites pastilles d'optimisme et de vie, Bella Kim. Ah,
trop beau.
Ouais, très très beau.
Ouais.
Bon. Vous évoquiez 2015, Koya Kamoura, Bella Kim, vous étiez déjà en France à ce moment-là, au moment des attentats de 2015 ?
Oui, en fait, je suis venue en France en 2015, 16 juillet.
D'accord, donc juste après, entre Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan. Ouais, comment est-ce que vous vivez ces 10 ans, cet anniversaire, entre guillemets
Ah, le temps passait trop vite. Ouais.
C'est vrai que c'était il y a 10 ans.
Ouais. Oh ouais,
bah, en fait, ce qui est terrifiant, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et pourtant, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a à chaque fois un nouvel événement qui vient prendre la place de celui-ci. Et donc, voilà, encore une fois, je trouve que du coup, la démarche de cette danse est très, très importante.
Je sais pas, en fait, dès que je suis arrivée en France, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait les attentats, il y avait quelques comment dire, pas problème, mais quelques dangers.
Traumatisme,
danger. Dans la vie, en fait, j'avais peur parce que j'en avais jamais en Corée, mais bon, ouais.
Vous avez appris à vivre avec, comme tout Parisien.
C'est ça.
Koya Kamoura, quand vous vous êtes lancé dans ce long métrage, vous avez interrompu un travail que vous aviez entrepris, un autre scénario sur les évaporés, l'histoire des évaporés au Japon. Ce sont des disparus volontaires, c'est ça. On parle des Johatsu, on décide de disparaître pour fuir une situation compliquée.
C'est ça. En fait, les Johatsu, c'est le terme littéral d'évaporation qu'on utilise pour de l'eau, par exemple.
Ouais.
Et c'est un sujet qui me fascine, qui a frappé le Japon dans les années 70, suite à la crise économique, où des gens qui ont perdu leur emploi, tout d'un coup, se sont retrouvés inutiles aux yeux de la société. Et plutôt que d'affronter le regard de leurs proches, ont décidé de disparaître. Ça peut s'appliquer à ça, ça peut s'appliquer à plein d'autres raisons, mais je trouve que cette démarche directement liée à l'honneur prend un écho beaucoup plus fort au Japon.
Oui, et c'est un thème auquel le cinéma, d'ailleurs, s'est déjà intéressé.
Il y a plusieurs films, Mathieu Demamura notamment, qui s'appelle L'évaporation de l'homme, qui est un film incroyable. Et donc voilà, c'est effectivement le sujet de mon prochain film.
À venir donc.
À venir.
Koya Kamoura, Bella Kim, est-ce que vous êtes prêts à voyager un peu ?
Avec plaisir, toujours.
Oui. Alors on y va, un voyage en musique pour découvrir, comme tous les mercredis dans cette émission, le hit de la semaine. Direction aujourd'hui le Kenya. À Nairobi, la capitale du Kenya. Bonjour Ali Bilali.
Bonjour Nathalie.
Journaliste à la rédaction Kiswahili de RFI. Tu es en charge de l'émission culturelle Changu Chako. Alors en ce moment, l'artiste qui a le vent en poupe chez toi à Nairobi, c'est Ali Soulemani du groupe L'Afrique, un groupe de soul et R&B.
Oui, exactement, Nathalie. Ali Suleiman est né à Nairobi, mais d'origine Msambweni, à Kwale, la région côtière du Kenya. Il appartient à une lignée d'artistes. Son père joue la batterie et sa mère était poète. Il entre en studio pour la première fois en 2017 avec son groupe L'Afrique. Il est au chant et à la guitare. Brandon Israel est auteur-compositeur, chanteur et guitariste également. Sans oublier Benjamin Otswal, directeur musical. Dakuyanza, c'est le titre que l'on écoute ensemble, qui signifie « Je t'aimerai ».
Je t'aimerais, Dakuyanza, j'espère que je l'écorche pas trop. Ali, ce style, le R&B soul, du R&B en Swahili, il est populaire au Kenya?
Oui Nathalie, c'est un style très populaire au Kenya. Il y a d'ailleurs un autre groupe connu ici, Sauti Sol, qui joue une musique un peu similaire en termes de contenu, mais aussi des rythmes. Au point d'ailleurs que les gens le confondent souvent. Sauti Sol était un modèle pour les nombreux jeunes kenyans, mais le groupe s'est séparé l'année dernière. Mais aussi, il y a un autre style de musique qui est aussi populaire, c'est les gangetons. Mais malheureusement, elle est jouée dans des clubs et dans les bus spéciaux communément appelés matatu, en raison du message que véhiculent ces chansons, à tel point qu'on ne peut pas les jouer à la radio. On écoute un autre extrait du groupe L'Afrique. Amua. Ufukara si ugonjwa wa kilema, na nguvu ya mwanaume, sio pesa pekee, chuna nipenda.
Ali, de quoi nous parle-t-elle cette chanson que l'on écoute?
Oui, le titre, comme je viens de le dire, s'intitule Amua en Kiswahili, qui signifie décide aujourd'hui. Mm-hmm. C'est une chanson d'amour évoque la difficulté de prendre une décision. Elle fait partie de l'album Love Freaks dans le genre Swahili R&B qui fusionne les Swahili et les rythmes et blues.
Ali, avant de nous quitter, dites-nous, on est en tout début d'année là, ce que nous réserve 2025 sur la scène musicale au Kenya?
Oui, comme vous savez, l'année dernière, la musique kenyane n'a pas très bien marché en raison de la situation politique. De nombreux artistes se sont impliqués dans les manifestations au point de se perdre dans la musique, nous espérons. Alors que cette année, ils vont sérieusement travailler et produire des très bons morceaux.
Oui, se remettre à la musique cette fois.
Oui, justement. Maintenant, je vous laisse avec la chanson « Nakupa Moyo », c'est-à-dire « Je te donne mon cœur ».
Voilà, il nous a donné son cœur, Nakupa Moyo, Ali Soleimani et son groupe L'Afrique sur le Pont des Arts. C'était le hit de la semaine. Merci Ali Bilali.
Oui, merci aussi Nathalie. Merci également à Vital Mugisho et à Pierre.
Et oui, bien sûr, Vital Mugisho qui est aux manettes chez vous, à Nairobi. On salue la rédaction Kiswahili, bien sûr, de RFI dans la capitale kenyane. À très bientôt.
Merci beaucoup Nathalie.
Extrait de la bande originale du film Hiver à Sokcho. C'est beaucoup plus calme que notre hit de Nairobi. Koye Kamura, elle est signée Delphine Malocena.
Absolument.
Et c'est vrai qu'elle accompagne cette ambiance cotonneuse, un peu mystérieuse du film.
Pour moi, la musique au cinéma, c'est très très important. Et je pense que tous les films qui moi m'ont marqué, la musique a une part très présente. Et donc, j'accorde beaucoup d'importance à la musique et parfois un peu trop d'ailleurs. C'est pour ça que c'était très bien de pouvoir parler et collaborer avec Delphine, parce que c'était un peu mon garde-fou si jamais j'avais besoin.
Parce que vous vouliez en mettre toujours plus, c'est ça ?
C'est un de mes écueils, je pense. Et je pense que parfois je ne fais pas suffisamment confiance aux images et j'ai l'impression qu'il faut en rajouter. Et elle a la sagesse et le recul de me dire non, là, ça suffit et ça fonctionne très bien. Mm-hmm. Et je lui fais une confiance absolue, donc c'est formidable de collaborer dans ces conditions.
Et elle reste dans ce registre doux et délicat. Des images. Pas de concession au goût de Bella Kim. On n'a pas eu de K-pop dans Hiver à Sokcho.
Alors, il y a une scène qui a été tournée dans un karaoké avec un morceau de K-pop.
Elle a sauté au montage. Ah, on est très...
Malheureusement. Mais on n'aurait jamais eu les droits de Rosé, malheureusement.
On serait très curieux de la voir, cette scène.
Et ben, je peux la mettre à dispo sur Internet.
C'est vrai. Hiver à Sokcho de Koya Kamura avec Bella Kim et Roche Dizem. À partir d'aujourd'hui, oui, sur les écrans en France, pour ceux qui préfèrent ou qui veulent aussi aller à la source, le roman d'Elisa Choix du Sapin. Merci beaucoup d'être venus nous en parler tous les deux, Bella Kim. On vous souhaite un nouveau rôle dans un grand film, dans un
merci
nouveau long métrage. Et Koya Kamura, eh bien, peut-être de mener à bien le numéro 2 sur les disparus du Japon.
Merci pour votre accueil.
Sur le Pont des Arts, avec Pierre Plantier à la réalisation, Damien Roucou pour la programmation. Demain, place à la rumba congolaise avec les Inséparables. J'ai nommé Fabregas le Métis Noir et Déplic Pomba. Ils ont fait leurs armes ensemble chez Werason de Wenge Musica Maison Mère. Et après une fâcherie de plusieurs années, bah oui, ça existe hein, en musique, ils se retrouvent pour ce premier album. Comment ils viendront nous le présenter? On écoutera cet album ensemble et on parlera de cette réconciliation en musique, bien sûr. Sur le Pont des Arts, rendez-vous 15h10, temps universel. Vous nous retrouvez évidemment aussi sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À suivre sur la Radio Mondiale, dans un peu plus d'une minute, le journal en français facile. À demain.
Votre rendez-vous culturel sur le Pont des Arts, à retrouver du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI et en podcast sur l'application Pure Radio.